Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais vous inviter à chercher dans votre Bible juste deux versets dans l'épître de Pierre, le premier épître, chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ces deux versets, quand on le place dans le contexte et la progression du développement de ce que dit l'apôtre Pierre, sert comme un pont. Pourquoi? Parce que du chapitre 1, verset 12, jusqu'au chapitre 2, verset 10, il sert de résumé, ou une conclusion, si vous voulez. Et nous avons donné beaucoup de messages à ce sujet, où la pensée de l'apôtre Pierre était focalisée à encourager les chrétiens pour les motiver de vivre une vie de sainteté tous les jours. Et maintenant, ce deux versets, quand nous allons regarder par la suite, il sert d'introduction du chapitre 2, verset 13, jusqu'à chapitre 4, verset 11. Et dans ce bloc, il va adresser à ses auditeurs toute une série d'exhortations qui touchent divers domaines de leur vie, et il emploie toujours des verbes à l'impératif. Revenons donc sur notre verset, les deux versets 11 et 12. Remarquez que il donne deux commandements. D'abord, au verset 11, il fait appel à ce qui se passe au-dedans de d'eux. C'est la même chose pour nous, au-dedans de chaque croyant. Il dit: abstenez-vous des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Puis, au verset 12, un deuxième commandement, où maintenant, il les mène à regarder sur l'environnement extérieur dans lequel ils se trouvent. Il dit, ayez au milieu des païens, au milieu des païens, une bonne conduite. Donc, c'est le comportement qu'ils devront avoir au sein de cette société païenne. On n'a pas le temps ce matin de regarder ces deux aspects. L'aspect, je dirais, négatif, vous abstenir, et l'aspect positif, ayant une bonne conduite. Ce matin, je me consacrerai uniquement sur le verset 11, concernant cette exhortation, où je dirais le côté négatif. Donc, il va faire appel à ce qui est au-dedans d'eux, et le verset nous indique déjà qu'il y a un combat. Il y a un combat. Et pour pouvoir traiter ce thème du combat à l'intérieur de chaque croyant, j'aimerais vous proposer trois questions dont nous allons nous poser chacun. D'abord, s'abstenir de quoi? Cela nous amène à regarder et comprendre ce que l'apôtre Pierre comprend par convoitise charnelle. Une fois que nous l'avons compris dans ses pensées, à travers ses écrits, ça nous permet de poser une deuxième question, mais s'abstenir. Oui, mais pourquoi? Deux éléments dans le texte nous donnent des réponses à cette question. Et je terminerai par poser cette question, s'abstenir, oui, mais comment? J'intitulerai ce message « Le combat intérieur du croyant ». Et nous allons nous pencher d'abord aux premières questions. S'abstenir de quoi? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous faire remarquer, quand vous parcourez l'épître de Pierre, uniquement à deux reprises, qu'il utilise le pronom personnel « je » quand il s'adresse à ses chrétiens. Pourtant, il y avait des séries d'exhortations dans ce livre. Et c'est uniquement dans ces deux occasions, la première que nous voyons ici, où il utilise « je vous exhorte ». Pourquoi? Parce que il venait donner une importance au comportement qu'il attend d'eux par rapport aux gens du dehors, la société païenne dans laquelle se trouvaient ces chrétiens. Et la deuxième fois où il utilise ce pronom personnel au singulier, c'est au chapitre 5, verset 1. Et cette fois-ci, je vous laisse le soin de voir chez vous. Mais là, par contre, il souligne l'importance du comportement des croyants dans leur rapport interne envers les gens du dedans, c'est-à-dire la communauté des croyants, les frères et sœurs qu'ils ont en Christ. C'est intéressant qu'il commence à s'adresser à ces chrétiens en utilisant l'adjectif « bien-aimé ». Notre pasteur a souligné cela tout à l'heure dans sa prière. Nous sommes des bien-aimés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ces chrétiens, aux yeux de l'apôtre Pierre, sont ses bien-aimés. Ça veut dire qu'ils les estiment, ce sont des gens estimés à ses yeux. Des gens qui sont chers à ses yeux. Des gens qui sont des favoris à ses yeux. J'essaie de regarder rapidement dans la Bible dans quelles circonstances est utilisé cet adjectif. Rappelez-vous que le Père, lors du baptême de Jésus-Christ, avait parlé du ciel et il s'adressait, quand Jésus-Christ s'était identifié en ce baptême, au pécheur. Il n'a pas de péché. La Bible dit, il n'a point péché, mais il s'est identifié au pécheur et en ce moment, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Parmi les passages, j'ai relevé Romains 1, verset 7, quand Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, il dit « À tous ceux qui sont à Rome sont bien-aimés de Dieu. » Dieu nous voit en tant que ses bien-aimés, en tant que ses favoris, ses estimés, et je dirais même ses chouchous. Peut-être j'exagère, me direz-vous. Et il utilise la même expression qu'il utilise pour son fils, en qui il a mis toutes ses affections. Réalisez-vous ainsi comment Dieu vous voit. Vous êtes précieux à ses yeux. Aux yeux du monde, peut-être pas. La Bible parle que nous sommes vus comme des balayures du monde. Mais ce n'est pas le cas aux yeux de Dieu. Mais revenons à notre passage au verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. » L'apôtre Pierre nous donne un exemple à imiter ici. Aux yeux de l'apôtre, ses auditeurs sont aussi ses bien-aimés. Bien-aimés, ses frères. Et ça nous donne un exemple. Est-ce que nous voyons ainsi nos frères et sœurs, des bien-aimés, comme Dieu le voit? Avez-vous des estimes comme Dieu le voit, quand vous voyez vos frères et sœurs en Christ? Nous devrions les considérer, parce que c'est ainsi que Dieu nous donne lui-même l'exemple. Il y a l'apôtre Pierre ici, quand il s'adresse à ses croyants. Mais revenons maintenant à notre question. S'abstenir de quoi? S'abstenir des convoitises charnelles. La réponse est dans le texte ou dans d'autres traductions. S'abstenir des convoitises de la chair. D'abord, il faut clarifier qu'est-ce qu'on entend par le verbe s'abstenir. S'abstenir signifie littéralement continuer à se priver de, ou si vous voulez, refuser de céder à quelque chose, ou bien se tenir en dehors de quelque chose. Ça, c'est littéralement la signification de ce verbe ici dans ce contexte. Et le temps est toujours au présent, ça veut dire que c'est quelque chose de continuel, c'est pas acquis une fois et c'est terminé, c'est quelque chose de continuel. Et alors, qu'est-ce qu'il entend alors l'apôtre Pierre par convoitise charnelle? Il est important, si nous voulons vraiment comprendre ses pensées, d'aller regarder dans cet épître, est-ce qu'il en a parlé ou est-ce qu'il en avait déjà fait allusion? J'ai lu à plusieurs reprises l'épître et j'ai remarqué qu'il a fait déjà allusion à cela au moins à 3 reprises. Vous pouvez souligné au chapitre 1, verset 14, il disait à ces chrétiens, en faisant allusion à ces convoitises charnelles, en tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il fait allusion dans ce passage. Il fait encore allusion dans le verset 18 du chapitre 1, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, ces convoitises, d'après ce verset 18, se reflètent par un style de vie, mais qui est un non-sens pour ceux qui étaient rachetés par Christ. Et le passage où c'est très clair et direct quand il définit ce qu'il entend par convoitise charnelle, c'est le chapitre 4. Je vous invite à chercher votre Bible, 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 3. C'est là où c'est très clair qu'est-ce qu'il entend par convoitise charnelle. On aurait pu aller déjà chercher dans d'autres livres, dans d'autres passages, mais je voulais rester dans le contexte de ce qu'il entend par ces choses. Et là, il nous donne des éclairages à ce sujet. Au verset 1, il s'adresse à eux, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. D'abord, le verset 1, qu'est-ce qu'il voulait souligner? Il a dit que Christ a pris la ferme décision de se rendre sur la croix, même s'il savait que cela impliquerait des souffrances atroces le concernant. Mais il voulait remporter la victoire définitive et complète sur le péché et sur Satan, et il a obéi à son Père. Et dans cela, il a assaini d'un coup mortel au péché, et il a brisé son pouvoir. C'est ce que nous enseigne le verset 1. Mais pourquoi Pierre parle de cela? Parce que il veut tirer une application de ce que Christ, la mentalité qui a amené Christ à aller jusqu'à sur la croix, il veut tirer cette mentalité pour appliquer à ses auditeurs. Et nous voyons cela maintenant dans le verset 1. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Déjà, armez-vous de la même pensée signifie que il faut qu'ils soient conscients qu'ils ont un combat à mener. C'est pour ça qu'il a nécessité de s'armer. Mais armé de quoi? De la même pensée. Mais la question maintenant, mais c'est qu'est-ce que c'est que cette pensée que Christ avait quand il allait sur la croix? Il acceptait de souffrir pour venir mourir sur la croix, pour remporter une victoire décisive sur le péché, parce qu'il voulait conquérir le royaume du péché tout entier. Et alors, le chrétien doit s'armer lui-même de cette mentalité que Jésus avait quand il allait sur la croix. Mais quelle est alors cette mentalité? En un mot, être résolu à faire face aux pressions du péché, même si cela coûte des souffrances, que de ne pas remporter la victoire sur le péché. C'est ça cette mentalité, être résolu, déterminé à faire face aux pressions du péché, même si cela peut engendrer des souffrances, parce que nous voulons remporter la victoire sur le péché. D'une manière directe, accepter de souffrir pour ne pas pécher. C'est ça la mentalité qui en a été du Christ et il veut que les chrétiens à qui il s'adresse soient animés et armés de cette pensée. Je voudrais surtout faire une différence. C'est une chose d'accepter de souffrir pour ne pas pécher. Vous voyez le verset 4. C'est un exemple pour ces chrétiens. Il dit, aussi trouvent-ils donc ces païens qui ne sont pas chrétiens. Étrange que vous ne précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et quelles sont les conséquences? Ils vous calomnient. Accepter de souffrir pour ne pas pécher. Être en leur compagnie dans ce débordement, dérèglement. Ça, c'est une chose. Mais la Bible enseigne par ailleurs, c'est toute une autre chose. De souffrir des conséquences parfois amères et restent tout le, et qui nous marquent tout le restant de notre vie pour avoir péché. Je veux redire, c'est autre chose de souffrir des conséquences amères, parfois le restant de notre vie, pour avoir péché. Je cite un exemple, le roi David, à cause de l'adultère qu'il a commis à Bathsheba, vous le connaissez. Il a souffert jusqu'à la fin de sa vie des conséquences de ses péchés, mais il a été pardonné. Mais il subissait la conséquence. Regardez l'éclairage au verset 2. Donc ça, c'est la pensée qui animait Christ et qui devrait nous animer en nous identifiant à ces chrétiens. Et il va donner un éclairage encore plus important. Au verset 2, il dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le but indiqué par l'apôtre Pierre ici est clair. Il veut une rupture avec cette manière de vivre caractérisée par la domination des convoitises des hommes. Et nous allons voir au verset 3 et 4, qu'est-ce qu'il entend par les convoitises des hommes? Il va le préciser très clairement. Donc, le premier verset amène à cette mentalité d'accepter de souffrir pour ne pas pécher, pour pouvoir remporter la victoire sur le péché dans nos quotidiens. Mais il veut aller plus loin. Ça, c'est un objectif. Mais encore, c'est mieux quand nous cherchons à plaire à Dieu en faisant ces choses. Il dit, afin de rompre avec le péché et vivre selon la volonté de Dieu. Et ça doit nous animer aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes libres, mais nous savons que Dieu a des souhaits à notre égard, il a des desseins. Il est bien et préférable de chercher à plaire à Dieu. Ça, c'est ce qu'il voulait souligner au verset 2. Et pour terminer, le verset 3 et 4, c'est là que ça nous amène un éclairage dans ses pensées. Mais qu'est-ce qu'il entend par convoitise charnelle? C'est la question dont nous sommes posés depuis le début. Il dit, que ces convoitises charnelles, c'est les mœurs de ces païens. Et ces mœurs sont caractérisées par le dérèglement, vous voyez au verset 3. Le débordement dans le débauche, verset 4. Et c'est pour cela que ça guette aussi les chrétiens. Et je vous dis, ça nous guette chaque jour aussi ces mêmes choses. Donc il fait allusion à ces mœurs païennes, caractérisées par le dérèglement, le débordement, qui nous guette et ce qui nous amène à nous contraindre chaque jour dans notre intérieur à ce combat. Alors, en un mot, qu'est-ce que Pierre entend par convoitise charnelle? Pierre qualifie de convoitise charnelle les désirs naturels. Ici, dans le texte, je vois l'instinct sexuel, je vois la faim, je vois la soif, qui sont des désirs normaux. Dieu l'a créé ainsi. Mais qui sont déréglés? Et vous voyez dans deux directions, et vous pouvez vérifier ailleurs dans d'autres épîtres, ce dérèglement va dans deux directions. D'abord, dans le domaine sexuel, débordement dans le débauche, et dans une autre direction, sur l'excès dans le manger et le boire. Vous voyez ici les orgies, vous voyez l'ivrognerie, et l'apôtre Paul développe la même chose aussi dans ses épîtres. Donc, retenons, il qualifie de convoitise charnelle les désirs naturels qui sont en eux-mêmes normaux, mais qui sont déréglés, tout particulièrement dans la direction qui touche le domaine sexuel et l'excès dans le domaine du manger et du boire. Alors, vous me dites, mais Lala, tu es en train de nous dire alors que s'abstenir des convoitises charnelles, alors s'abstenir de tout ce que nous pouvons désirer. Est-ce que c'est ça ce que cela veut dire? Nous priver du désir? La réponse est bien sûr que non. Par contre, cela veut dire, à mes yeux, et surtout de ce que je comprends de l'apôtre Pierre, ne pas courir après ces choses qui sont tout à fait légitimes, mais avec un désir de mesurer et incontrôler. Dieu nous a créés avec des désirs, mais il ne faut pas que ces désirs, par ses impulsions, nous poussent à ce que nous perdions le contrôle. Et c'est lui qui nous contrôle. C'est ça ce que je comprends ici, par convoitise charnelle, d'après ce que nous dit ce verset 4. Vous savez que la parole de Dieu n'est pas contre le manger. On a besoin pour vivre. Mais elle nous met en garde contre l'excès de table. La parole de Dieu n'est pas contre la relation sexuelle. Quand cela est fait dans le cadre du mariage. Mais en dehors de ce cadre, la Bible qualifie de fornication, de débauche. La parole de Dieu n'est pas contre l'argent. Et je m'arrête là. On en a besoin pour vivre. Mais désirer vivre pour l'argent, ce que la Bible appelle l'amour de l'argent, c'en est tout un autre. Et elle nous met en garde contre les conséquences désastreuses de cela par rapport à la foi. Maintenant, nous comprenons mieux ce que Pierre entend par convoitise charnelle quand il s'adresse à ses chrétiens. Et nous allons nous poser alors maintenant la deuxième question et essayer de chercher la réponse. S'abstenir des convoitises charnelles, mais pourquoi? Deux éléments de réponse sont dans ce court verset. Je vous invite à le revoir, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme, dans le sens en tant que, étrangers et voyageurs. Ça, c'est un premier élément de réponse. S'abstenir, pourquoi? À cause de leur statut. Étrangers et voyageurs. Et dans le texte, il y a une deuxième raison. À cause de l'enjeu. L'enjeu est de taille. Quel est l'enjeu? Il s'agit d'un combat. C'est sérieux. C'est vital. Pour l'âme. Et donc, regardons Et troisième chose qui n'est pas dans le texte, et je rajouterai, s'abstenir, pourquoi? À cause des marques que nous pouvons laisser dans l'âme. Je veux m'expliquer avec des illustrations bibliques par la suite. Donc, trois raisons que je vous propose, à cause de leur statut, à cause de l'enjeu, et parce que cela marque parfois définitivement l'âme dans des blessures, parfois. Regardez leur statut. Ils sont étrangers. Étrangers, ce terme est utilisé pour désigner toute personne vivant dans une terre qui n'est pas la leur. Et il vit avec des droits limités. Rappelez-vous d'Abraham, dans Genèse 23, verset 4, quand il avait cherché un sépulcre pour enterrer sa femme Sarah, il est allé aux fils de Heth et en leur demandant, « Je suis étranger et habitant parmi vous. » C'est ça, Abraham était étranger parce qu'il vivait dans une terre qui n'était pas la sienne. Et nous lisons dans Hébreux 11, verset 13, « Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Vous pouvez regarder au verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Mais laquelle ? Au verset 16, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une patrie céleste. Vous savez, le chrétien est laissé dans ce monde. Il doit vivre avec cette mentalité d'étranger. D'une part, le chrétien est étranger à ce monde par son système de valeurs, par ses mentalités. Et le chrétien n'est pas chez lui, dans sa patrie, qui est le ciel. Donc, il faut qu'il soit équipé d'une mentalité d'être étranger dans ce monde, mais aussi que ce monde doit lui être étranger par ses valeurs, par sa mentalité. C'est ce qui est équipé, ces héros de la foi dans Hébreux 11. Parce qu'ils étaient persuadés, déterminés, convaincus qu'ils sont étrangers. Ici, ils ne sont pas encore chez eux. Ils attendent de déménager dans leur patrie, le ciel. Ça doit nous animer dans notre changement au niveau de notre pensée, de notre mentalité. Mais aussi, à cause du fait qu'ils sont des voyageurs. Voyageurs, et ce terme implique un court séjour. Nous sommes de gens de passage sur cette terre. Mais quand je réfléchis à cela, j'ai peu de temps pour vivre. Qu'est-ce qui est prioritaire à mes yeux? Ça doit m'interpeller. Et à chacun de nous, nous, devant Dieu, en tant que voyageur, mon séjour ici-bas est très court. Qu'est-ce qui me préoccupe? Est-ce que gagner à tout prix beaucoup d'argent, par exemple, faire tout à n'importe quel prix de bâtir la maison de mon rêve, pourquoi pas, et être préoccupé par des passe-temps qui me prennent tout le temps, toute mon énergie, et je m'arrête là. Or, pendant que le Seigneur nous laisse ici en tant que voyageurs pour ce court séjour, nous devrions nous rendre compte de cela. Nous devrions investir notre énergie pour gagner des âmes pour le Seigneur. M'investir sur les choses de Dieu. Je ne parle pas des activités de l'Église. M'investir sur les choses de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? S'occuper des autres pour leur progrès spirituel. Prier pour les autres qui est engagé dans ce combat, chacun. Visiter les autres, passer un coup de fil pour avoir de leurs nouvelles. Et je m'arrête là sans oublier passer du temps à lire, à méditer sur la parole de Dieu, la nourriture de notre âme. Chers frères et sœurs, le temps est court et nous sommes voyageurs. Profitons de mettre à profit ce temps pour le Seigneur, pour sa cause, et cherchons les choses d'en haut et non pas ceux qui sont sur la terre. S'abstenir, pourquoi? À cause de l'enjeu. L'enjeu, il s'agit d'un véritable combat. Rappelez-vous encore, verset 11. Je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, c'est leur statut, nous venons de voir, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, nous comprenons maintenant, qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Donc, l'enjeu est de taille, il s'agit d'un combat. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Par cette expression, implicitement, il me semble que Pierre aussi veut nous dire que nous devons être conscients que nous sommes engagés dans ce combat. Ça, c'est une chose. Mais aussi, ce qui n'est pas écrit noir sur blanc là, mais sous-entend derrière, que discipliner son âme, l'âme à les sièges de la vie, face aux sollicitations à tout instant de la chair en nous, n'est pas chose facile. Je le réalise pour ma propre vie. Et vous le voyez pour vous-même, que discipliner son âme face à cette sollicitation sans cesse de la chair qui est en nous, lutter contre cela n'est pas chose facile. Vous savez, cette chair, peut-être en parler rapidement, c'est comme la pesanteur terrestre qui attire tout objet autour de la surface de la terre vers le bas. De même, la chair en nous, c'est comme cette pesanteur qui nous entraîne au péché. C'est un principe, c'est une loi de corruption et qui nous souille de l'intérieur. Notre frère Jiwan a lu Marc chapitre 7. C'est de l'intérieur, c'est du dedans, il nous souille cette chair. Et il lutte perpétuellement contre l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'apôtre Paul disait dans Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça, c'est un fait, la Bible le dit, c'est notre position. C'est acquis une fois pour toutes. Mais dans le quotidien, la chair ne veut pas être crucifiée. La chair veut toujours ressusciter. La chair veut toujours dominer. C'est pour cela qu'il s'agit d'un combat de tout instant. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus facile de passer des heures sur Facebook, de passer des heures à regarder un film sur un DVD, quoi de mal, au lieu de passer du temps à lire, à méditer sur la parole de Dieu. Ah, j'ai cette lutte. Je pense que vous avez la même chose et vous le vivez dans votre quotidien. Il est plus facile de rester chez soi quand on est une journée très chargée. Je prends par exemple le mercredi soir pour la réunion de prière. Il est très facile de dire, je suis fatigué. Je veux rester chez moi. Au lieu de venir à la réunion de prière de l'église, je mène ce combat. Je suppose que c'est le vôtre. Chaque instant, nous sommes assaillis de ces désirs qui ne veulent pas que nous le fassions ces choses. Alors, comme si l'apôtre Pierre est en train de nous dire, abstenez-vous de courir après les plaisirs et les occupations, même parfois légitimes, qui risquent de nous détourner de Dieu. Faisons attention. Abstenez-vous des choses qui vont faire obstacle à votre progrès spirituel. Abstenez-vous des choses qui vont détruire votre relation avec le Seigneur. En résumé, abstenez-vous de donner satisfaction aux convoitises de la chair en ce qu'elle exige de nous à tout instant à cause de ces convoitises. Et s'abstenir, oui, mais pourquoi? Une troisième raison, c'est que à cause des mots, parfois des blessures, parfois invisibles, mais c'est souvent assez trop tard, une fois que nous avons vu les symptômes. Mais l'âme a été déjà touchée. Mais c'est toujours trop tard. Quand les symptômes arrivent, c'est là qu'on découvre les maux qui étaient occasionnés, qui touchaient notre âme. Je donne un exemple. Vous savez que la chair, cette pesanteur, cette tendance à nous tirer vers le péché, il conçoit des pensées. Dans Éphésiens 2:3, je vous cite, nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La chair a des pensées, il conçoit des pensées. Je vois ici que la chair a des volontés. La chair convoite. Par ailleurs, la chair a des raisonnements. Mais tout cela porte la marque du péché et de la rébellion. Et je voudrais juste, pour illustrer ce dernier point, les maux qui sont souvent, nous ne voyons pas, sauf que le symptôme commence à se révéler, les maux causés à notre âme. Regardez avec moi, tout simplement, en prenant le péché d'incrédulité. Oh, ça nous guette si facilement. Regardez Marc chapitre 4, verset 38 à 40. Marc chapitre 4, verset 38 à 40, pour illustrer le dégât occasionné par l'incrédulité dans notre âme. Et nous nous apercevons uniquement quand les symptômes surgissent de l'extérieur. Mais le mal est commis déjà à l'intérieur. Ici, les disciples, étant avec Jésus, et sur une barque, il y avait un grand tourbillon. Je ne le lis pas, mais je vous donne les références. Et dans ce texte, il est dit que les flots se jetaient dans la barque au point de remplir la barque. Et il nous est dit que Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Surgit cette question. Maître, ça fait un peu bizarre, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et ce qui m'a frappé, c'est la réponse que Jésus donnait, parce que lui, il va chercher la racine qui est au fond, pourquoi cette question est-elle posée. Il va à la racine, il leur reproche leur incrédulité. Comment n'avez-vous pas de foi? Comment n'avez-vous pas de foi? Jésus, à travers leur questionnement, va à la racine et soulève le problème de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que ils ont vu déjà quelque temps avant des miracles accomplis par le Seigneur Jésus-Christ. À ses yeux, ils ont même participé à nourrir des foules innombrables. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? C'est que quand nous élevons ce que nous ressentons, c'est le cas pour ces disciples ici, au-dessous de ce que Dieu a dit ou Dieu a déjà montré par ses œuvres ou même par son intervention dans nos vies, quand nous élevons ce que nous ressentons au-delà de ce que Dieu nous dit, alors nous laissons l'incrédulité créer du désordre dans l'âme. Et quel est le désordre ici? C'est l'anxiété. La peur, c'est ce qui est dit. Je prends un autre exemple, le mécontentement. Le mécontentement, c'est toujours cet état d'être insatisfait parce que on veut, dans sa tête, décider d'obtenir telle ou avoir telle ou telle chose. Et souvent, c'est illustré par cette expression, je devrais être. Ah, marié. Le temps passe. Je trouve pas l'âme sœur. Oh, je devrais être déjà marié. Je devrais être déjà propriétaire. Je devrais être déjà quelqu'un qui a un poste assez élevé. Ou, aussi d'autres expressions, je n'aime pas mes circonstances. Oh, je n'aime pas mon corps. Tu prends du poids. La vieillesse, je le déteste. Oh, je n'aime pas mon travail. Je le fais à contre-cœur. Ou bien, si seulement j'avais une meilleure santé, Si seulement j'ai moins de factures à payer. Si seulement, et on peut en rajouter la liste, vous savez, à la racine de ces choses, il faut identifier la racine de ces pensées, et à la racine de problèmes de mécontentement, c'est tout simplement les pensées de se dire en soi que Dieu ne prend pas soin de moi. Quand vous analysez toutes ces choses que je viens d'illustrer, à la racine en commun, c'était cette pensée, Dieu ne prend pas soin de moi. Or, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Sans revenir à Matthieu chapitre 7, inquiétude pour le vêtement, inquiétude pour le manger, inquiétude pour le lendemain. Jésus donne la réponse qu'il prend soin de nous, autant qu'il prend soin de ses créatures toutes petites, même les oiseaux, autant il prend soin de ses créatures, les bien-aimés que nous sommes en Jésus-Christ. Quelle est la leçon ici aussi? Quand nous élevons ce que nous pensons au-dessus de ce que Dieu dit dans sa parole, nous laissons l'incrédulité faire du mal à l'âme. Et ça se manifeste par l'irritation. Ça se manifeste par la colère. Ça se manifeste par l'inquiétude. Et vous le savez bien que tout cela a des conséquences sur le corps physique. Je parle de l'âme, mais rejaillit sur le corps, la santé. Donc vous voyez, on ne se rend pas compte. Subtil. Mais ce combat est réel et les pensées qui nous envahissent doivent être regardées aux petits soins par rapport à la parole de Dieu pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à l'âme. Et parfois, on peut citer d'autres exemples, ça laisse des traces indélébiles et qui marquent à jamais et qui fait que nous ne sommes pas des chrétiens victorieux, mais des chrétiens qui vivent dans la vie. J'aimerais terminer pour poser cette troisième question. Mais s'abstenir, oui, mais comment? Comment? Par contre, notre verset ne nous dit pas le comment. Le verset ne nous dit pas le comment. Mais la Bible nous donne des principes par ailleurs. Et j'aimerais vous demander à regarder Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai regardé l'interlinéaire grec et littéralement dans le grec, parce que là, c'est pas tout à fait ça le sens. Mais quand on regarde le grec, littéral, et on compare avec la version Tob, le sens c'est celui-là. Par l'esprit, vous mettez une virgule, marchez. Vous mettez une virgule, et le désir de la chair, plus du tout vous réaliserez. Mot à mot, le grec. Je répète, par l'esprit, marcher, et le désir de la chair, plus du tout vous réaliserez. Qu'est-ce qu'il faut noter? D'abord, la responsabilité du chrétien n'est pas la marche. Si vous regardez bien l'expression, la traduction littérale, ce n'est pas la marche qui est sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Sa responsabilité, c'est de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et une fois cela acquis, c'est cette soumission qui va diriger et qui va provoquer la marche. Vous voyez la logique? Soumission à l'Esprit, et cela dirige et provoque la marche. Et le verset nous dit, lorsque cette soumission est acquise, le résultat, il est direct. Quel est le résultat? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous y sommes, convoitise charnelle, convoitise de la chair. Quand nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu qui est en nous, ça se répercute sur notre marche et logique, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. et en corollaire, si nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit, la chair va se manifester et notre marche va être affectée par ces désirs. C'est clair, d'après ce verset. Je tiens à souligner une deuxième chose. Ce n'est pas que nous n'aurons pas les désirs de la chair. Le texte ne dit pas ça. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne dit pas que nous n'avons pas les désirs de la chair. Mais la différence plutôt, c'est que nous n'accomplirons pas ces désirs. Quand nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, ça a une répercussion sur notre marche. Et nous n'accomplirons pas ces désirs. Pourtant, la chair est en nous, mais nous ne sommes pas dans la chair. S'abstenir, mais comment ? Un autre principe, Colossiens 3:5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre entendait par convoitise charnelle, ces désirs qui sont légitimes mais incontrôlés et toujours visent deux directions, soit le domaine sexuel. Et regardez ici. Pourtant, c'est Paul qui parle, on voit bien les choses revenir. La débauche, vous voyez, qui touche à tout ce qui est domaine sexuel, l'impureté. Nous avons parlé de l'argent, la cupidité, qui est une idolâtrie. Mortifier a le sens de laisser se nécroser, en retirant la nourriture à l'organe qui va alors s'atrophier. Vous avez fait quand vous étiez jeune des petits travaux pratiques en biologie, de prendre dans une boîte de culture et mettre des cellules, et en le privant de nourriture, il va s'atrophier, il va mourir. Et le principe est là. Quelle nourriture recueillons-nous des images qui attirent nos regards? Quelle nourriture recueillons-nous de nos lectures? Quelle nourriture recueillons-nous quand nous surfons beaucoup de temps sur Internet? Je peux rajouter la liste. Ce qu'il faut retenir, comme nous venons de voir, que ça laisse des traces dans notre cerveau, parce que ces images vont être impressionnées dans notre cerveau et il va être gardé dans nos mémoires. Et tôt ou tard, si c'est des choses qui ne sont pas bonnes, il va rejaillir une fois qu'on est dans un contexte pour passer à l'acte, ce qui était nourri dans nos pensées. Vous voyez le cheminement? Chers frères et sœurs, nous devrions mortifier, ne pas nourrir notre chair par ce qu'il convoite. Et j'aimerais rajouter encore l'apôtre Paul dans Romains 13, 14, va dans le même sens, il dit « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc cela implique que nous ne devons faire aucune provision pour la chair, sinon nous allons nous exposer à une chute certaine dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais terminer par un troisième principe, s'abstenir. Mais comment? Regardez Colossiens chapitre 2, verset 11. C'est en Christ que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. De quoi parle-t-on? Le dépouillement du corps de la chair. Troisième principe, la circoncision spirituelle. D'abord, pour comprendre ce principe, il faut voir rapidement, mais qu'est-ce que c'est que la circoncision du point de vue physique? Donc, ce verset nous parle bien de la circoncision faite de la main d'homme et la circoncision de Christ. Donc il y a deux choses, la circoncision physique et la circoncision spirituelle. Et vous savez, la circoncision physique consiste tout simplement à enlever un pli supplémentaire de peau dans l'organe génital masculin. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'est pas indispensable et il peut être un foyer d'une infection. Et donc, c'est pour cela que dans d'autres cultures, il y en a beaucoup, où on enlève ce prépuce tout simplement pour raison d'hygiène, pour qu'il ne soit pas le foyer ou le siège d'une infection ou de la maladie. Et une fois qu'on a compris cela, ça c'est la circoncision physique, c'est une image de ce que c'est la circoncision spirituelle. Et de quoi il s'agit? La circoncision spirituelle touche directement le cœur. Regardez Romains chapitre 2, verset 28. La circoncision, je dirais spirituelle, c'est celle du cœur. Oh, la Bible parle beaucoup du cœur. Je me rappelle de ce verset, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je me rappelle de Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, et on en peut en citer des versets et des versets. Quel est le lien avec la circoncision ici? C'est tout simplement que dans notre cœur, il y a un prépuce. Et ce prépuce, Paul l'appelle le corps du péché. Ce prépuce, nous devons le couper et l'enlever. Tout simplement, pourquoi? Pour que le mal n'y séjourne pas. Pour que ça devienne un foyer d'infection et causer la maladie. Donc nous ne devrions pas permettre au péché de rester autour pour causer l'infection et la maladie. De cela qu'il s'agit d'une circoncision spirituelle. Souvent, notre chair, par ses convoitises, nous sollicite et place dans notre esprit, sous la forme des pensées, de ses convoitises. Souvent, le cheminement est ainsi. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette pensée? Soit on l'abrite, on la chérit, on le tourne, on remédite, ça en fait tourner dans la pensée. Mais la circoncision spirituelle nous amène à faire le contraire, à refuser de l'abriter cette pensée pour qu'il ne soit pas le siège d'une infection pour ma vie qui va me ruiner dans ma communion, dans ma vie avec le Seigneur. Et donc je refuse de l'abriter et par conséquent mes actions, mes attitudes, mon comportement va aller de pair. Je vais m'arrêter là, le temps est passé, chers frères et sœurs. Tant que vous êtes sur cette terre, tant que nous sommes sur cette terre, ce combat ne cessera jamais. Donc soyons vigilants, ne baissons pas les armes, mais livrons une ferme bataille. Dieu nous a équipés, selon Colossiens 1:29, de sa force qui agit puissamment en moi. Et c'est ce que nous avons besoin dans ce combat à chacun de nous tous. Que le Seigneur bénisse sa parole.